Chers frères et sœurs et chers amis, ceci est l'étude numéro 4. Et le titre sera « L'Éternel a conclu une alliance avec Abraham ». Quand l'Éternel entra dans l'alliance avec Abraham, il y avait plusieurs événements très remarquables qui ont eu lieu. Parmi ceux était le changement des noms d'Abraham et de Sarai en Abraham, prince de Dieu, et Sarah, princesse de Dieu. En d'autres termes, Dieu les éleva dans la famille royale avant qu'ils coupent l'alliance avec eux. L'alliance avec Abraham, qui est la base du judaïsme et du christianisme, est le document le plus merveilleux et existant. C'était ratifié par la circoncision. Notez la Genèse, le chapitre 17. Et cette alliance lia Abraham et ses descendants à l'Éternel par des liens indissolubles. Et elle lia l'Éternel à Abraham et ses descendants par la même marque solennelle. Lorsque Abraham avait près de 100 ans, Dieu lui apparut comme le Tout-Puissant, ou si vous voulez, comme El Shaddai. Et il dit à Abraham, « Marche devant ma face et sois intègre, et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Or, nous voyons Abraham, qui était tombé sur sa face, il y a de quoi. Dieu parle avec lui, ce n'est pas rien. Dieu lui dit, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. » Car je te rends père d'une multitude de nations. » Dans la Genèse, au chapitre 15, verset 6, Dieu a fait une promesse à Abraham, et nous lisons qu'Abraham a eu confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Ces mots, « Il a eu confiance », cela veut dire en hébreu non seulement une confiance aimante, gentille, polie, mais aussi il veut dire une sorte de rendez-vous complètement, si vous voulez faire partie carrément de Dieu et entrer dans les plans de Dieu, s'offrir absolument au Seigneur El Shaddai. Abraham se rendit à Dieu en s'offrant absolument de lui-même. Il s'est offert lui-même. Et à cause de cela, Dieu dit, « Prends pour moi, c'est-à-dire comme un substitut pour Dieu, un animal et tue-le. » Abraham a fait cela. Et après qu'Abraham a tué le substitut de Dieu, l'Éternel lui dit, « C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncierez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. » Il faut bien prendre certaines choses au figuré. Par exemple, quand nous disons le sang de la circoncision, s'est mêlé avec le sang des animaux qui étaient tués, c'est donc au figuré. Lorsque, chers amis, ces choses étaient donc accomplies, eh bien l'Éternel et Abraham étaient entrés dans une véritable alliance. Cela signifiait que tout ce que Abraham avait possédé était mis sur l'autel. L'alliance voulait dire aussi que Dieu devait soutenir et protéger Abraham lorsque Dieu a scellé l'alliance avec Abraham. Eh bien, la nation d'Israël commença à exister comme un peuple d'alliance à cause de cette merveilleuse alliance. Et cette alliance était limitée à Israël, ce qui était les enfants d'Abraham. Donc, Israël et tous les descendants. Et c'était soutenu par la promesse et par le serment de Dieu. Vous pouvez noter la Genèse, chapitre 22, versets 16 à 18. Donc, le sceau de l'Alliance était la circoncision. Et à l'âge de 8 jours, tout mâle était circoncis et la circoncision était l'entrée dans l'alliance d'Abraham. Quand cet enfant était circoncis et était entré dans l'alliance, alors cet enfant devint héritier de tout ce qui était à propos de l'alliance. Si le père ou la mère de l'enfant mourait, un autre Israélite était obligé d'adopter l'enfant, ou si le mari est mort, il était obligé de s'occuper de la veuve. C'est la loi de l'alliance. Tout est mis sur l'autel de cette alliance. Si la garde de l'alliance avec un frère de sang amena la mort ou la perte d'une femme ou d'un enfant ou la destruction de sa propriété ou de sa propre vie, tout est mis sur l'autel de l'alliance. Il y a les obligations de l'alliance. La Bible nous dit, selon Genèse, chapitre 17, verset 13, « Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Et tout mâle âgé de 8 jours était circoncis, et la marque sur le corps était le sceau de leur position dans l'alliance, et tant que Israël gardait cette alliance qui était renouvelée en Moïse, il n'y avait pas au monde entier assez d'ennemis qui pouvaient conquérir un seul des villages d'Israël. Lorsque Dieu conduisait les enfants d'Israël au dehors de l'Égypte beaucoup plus tard, par Moïse, il n'avait pas de loi ni de sacerdoce. Alors l'Éternel leur donna les 10 commandements, et le sacerdoce, l'expiation, les sacrifices, les lois qui gouvernent les sacrifices, le bouc émissaire et le culte. Et tous ceux appartenaient à l'Alliance. Et l'Alliance faisait partie des 10 commandements, mais l'Alliance était la raison pour la loi. Il s'appelait la loi de l'Alliance. Les enfants d'Israël étaient le peuple de l'Alliance. Lisez Exode et Lévitique, et lisez cela avec soin. Et remarquez où le mot « expiation » se trouve pour la première fois. Le temps où la loi était donnée, où le sacerdoce était établi. Et remarquez, dans Lévitique au chapitre 16 et 17, le sens du sang et la signification du mot « expiation ». Ensuite, nous avons le sacrifice d'Abraham. El Shaddai, le Dieu de l'univers, lui dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. » Vous savez le reste de cet ordre affreux qui vint à Abraham comme il se tenait debout, pétrifié en présence de l'ange de l'Alliance. Malgré cela, il n'y avait pas d'hésitation de la part d'Abraham et considérait sa position. Nous avons connaissance qu'il souhaitait un fils et comment. Et nous connaissons comment il exprimait à l'Éternel ses désirs ardents dans ces années où il semblait qu'une telle possibilité était pas du tout possible. Alors Dieu lui promit un fils. C'est écrit dans la Genèse au chapitre 17, versets 15 à 17. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et crois-moi, elle deviendra des nations et des rois sortiront d'elle. » Et Abraham tomba sur sa face, il y avait de quoi. Et il rit, et il dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans, et à Sarah âgée de 90 ans, enfanterait-elle vraiment ?» Et Dieu lui dit, « Certainement, Sarah ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » Genèse, chapitre 17, verset 19. Abraham et Sarah étaient, comme nous le savons maintenant, très vieux. Abraham avait presque 100 ans et Sarah avait 90 ans. Dans le domaine des sens, on peut bien le comprendre, il leur était impossible de devenir les parents d'un enfant, car l'Écriture nous dit dans la Genèse au chapitre 18, verset 11, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Mais Abraham ne considérait pas son propre corps, qui était presque mort, ni la stérilité de la matrice de Sarah, mais il regardait à Dieu. Il se sentait fort et il savait et il croyait que Dieu pouvait accomplir tout ce qu'il avait promis. L'Écriture nous dit « Abraham croyait de tout son cœur à son Dieu ». Et dans la Genèse, chapitre 21, versets 1 à 3, vous verrez qu'il est dit que l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac, qui veut dire « le rire » au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Donc l'enfant grandit, et quand il avait environ 18 ans, Dieu demanda à Abraham de sacrifier ce jeune homme. Il dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Moridja, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » C'est écrit dans la Genèse, chapitre 22, verset 2. Je me demande si nous en aurions obéi à une chose pareille. J'en doute fort. Abraham, croyez-moi, n'hésita pas, quoique, bien sûr, cela voulait dire qu'il devait abandonner tout ce qu'il aimait de tout son cœur, mais il prit quand même le jeune homme et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Après 3 jours et 3 nuits, Abraham et Isaac arrivèrent à la montagne de Moridja et ils élevèrent ensemble un autel. Abraham prit le jeune homme et le mit sur l'autel en prenant le couteau pour l'égorger. Alors là, l'ange de l'Éternel l'appela et lui dit « Abraham, Abraham, n'avance pas ta main. Dieu a vraiment trouvé un homme qui gardera pour toujours l'alliance et il dit « Je te jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils bien-aimé, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. » Vous pouvez noter cela dans la Genèse chapitre 22, versets 16 et 17. Chers amis, avez-vous remarqué la phrase « Je te jure par moi-même » ? Le trône de Dieu était devenu la certitude de sa promesse. C'est la chose la plus solennelle que peut concevoir un homme. Oui, Abraham avait prouvé qu'il méritait la confiance de Dieu. L'Éternel qui garde l'alliance malgré des péchés, croyez-moi, qui étaient très graves de certaines villes. Eh bien, lorsque Dieu allait détruire Sodome et Gomorre, il en a parlé à Abraham. Et vous rappelez-vous comment Abraham avait fait son intercession en faveur de Sodome et comment il avait parlé à Dieu d'une manière qui nous étonne terriblement? Il dit « Celui qui juge toute la terre, n'existera-t-il pas et n'exercera-t-il pas la justice? Je répète, celui donc El Shaddai, qui juge toute la terre, ne va-t-il pas exercer la justice? Alors, il commença à parler en faveur des quelques justes au milieu de ces villes, et à cause du rapport de l'alliance du sang, Dieu a permis à Abraham de devenir l'intercesseur pour les méchantes villes de Sodome et de Gomorrhe et de toute leur homosexualité, de intercéder pour ces abominations, pour ces gens que Dieu allait totalement éradier, détruire. Et quand Abraham était entré dans l'alliance, il gagna le droit d'arbitrer entre les méchants de la terre et le Dieu de tout l'univers. Abraham établit un précédent d'intercession qui est resté, et croyez-moi qui restera dans tous les siècles comme un modèle. Donc, l'alliance d'Abraham était la raison d'être d'Israël. Si Dieu ne leur avait pas donné l'alliance, la nation n'aurait pas existé. Isaac était né après qu'Abraham avait 100 ans et Sarah avait plus de 90 ans. Isaac, père de la nation d'Israël, était un enfant né par un grand miracle. Plus tard, on a fait descendre cette nation en Égypte après que les petits-fils d'Isaac étaient arrivés à maturité. Dieu les délivra du pays d'Égypte 400 années plus tard, après avoir été en servitude pendant plus de 300 ans. Aucune nation n'a jamais été délivrée comme ça. C'est l'épreuve nationale la plus rare et la plus unique dans toute l'histoire. Dieu les délivrait parce qu'ils étaient son peuple de l'alliance de sang. Dans Exode au chapitre 2, lorsque Dieu entendit les gémissements d'Israël en Égypte, il dit qu'il se souvenait de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu envoya Moïse en Égypte pour délivrer les descendants d'Abraham parce qu'ils ne pouvaient pas supprimer l'alliance de sang. Ils ne pouvaient pas l'oublier ni feindre de l'ignorer. Il est le Dieu qui garde et respecte l'alliance. Cette promesse à Israël était l'alliance solennelle que Dieu avait ratifié de sa part pour se mettre en servitude totale et absolue à cette alliance-là. Dieu et Israël s'étaient unis. Et tant que Israël gardait l'alliance, il n'y avait pas de malades parmi les Israélites. Lorsque il dit « Je suis l'Éternel qui te guérit », alors tout était bien. L'Éternel était leur seul médecin. Il n'était pas seulement leur médecin, mais il était leur secours et leur protecteur. Il n'y avait jamais une femme stérile. Les bébés ne moururent jamais. Les jeunes gens ne moururent jamais non plus, à moins qu'ils ne manquèrent à l'alliance. Tant qu'ils étaient fidèles à l'alliance et n'y avaient là pas du tout assez d'armées, car aucune armée au monde pouvait conquérir un seul de leurs villages, aucune armée. Et en bataille, aucun des soldats n'était jamais tué, ça s'était jamais vu, car ils étaient les hommes de l'alliance de sang. Vous avez bien compris que le sang prend une très importante chose, ça devient ce qu'il y a de plus important dans les promesses de notre Dieu. Et Moïse, donc, les a conduits hors d'Égypte, dans le désert infertile, et il a donc là aidé dans cette alliance pour leur donner de l'eau, croyez-moi, de l'eau dans le désert où il n'y en avait pas, pour tous, et même pour leurs animaux, et aussi de la manne à manger, tous les jours. Et lorsqu'ils sortirent du pays d'Égypte, c'était au moyen des signes et des miracles qui ont étonné tout le monde depuis ce temps-là. Dieu les protégeait vraiment parce qu'ils étaient le peuple de son alliance. Lorsque ils péchèrent et manquèrent à son alliance, ils étaient enlevés en captivité à Babylone, car ils avaient péché contre l'alliance et ils avaient apporté le jugement sur eux-mêmes. Mais malgré cela, Dieu se souvenait de l'alliance qu'il avait jadis fait avec Abraham. Ils avaient reçu une révélation de Dieu. Et nous appelons cela l'alliance ancienne, plutôt l'ancienne alliance, l'ancienne dispensation. Et nous l'appelons la loi des prophètes et les psaumes. Dieu donna au peuple d'Israël cette révélation et cette loi parce que ils étaient le peuple de l'alliance de Dieu. Ensuite, plus tard, Dieu leur donna le Seigneur Jésus-Christ parce que ils étaient son peuple de l'alliance par le sang. Notez bien l'importance du sang. Jésus-Christ était le fondateur de la nouvelle alliance, de la nouvelle dispensation. Et nous avons cette nouvelle alliance parce que les enfants d'Israël avaient l'alliance d'Abraham. Or, chers amis, maintenant, nous avons les bénédictions qui sont plus riches que les leurs, et ceci à cause de la nouvelle alliance dont le garant est Jésus-Christ le Messie. Oui, Israël était vraiment le peuple de l'alliance de sang. Et je voudrais vous faire remarquer, oui, remarquer plusieurs choses miraculeuses à propos d'Israël, à propos de ce peuple de l'alliance de sang. Cette alliance leur garantissait la protection physique des ennemis, des pestes et des maladies. Les calamités qu'il y a aujourd'hui, les pandémies. Ils allèrent en Égypte et devinrent une grande nation de plus de 3 millions de personnes. Dieu les conduisit hors d'Égypte au moyen des miracles fabuleux parce qu'il avait garanti de les délivrer. Il avait promis à Moïse, comme il se tenait debout près de la mer Rouge, après avoir été délivré de leur esclavage, Dieu leur dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Alors il leur promit qu'il ne les frapperait d'aucune des maladies dont il avait frappé les Égyptiens. Il était le médecin de leur alliance de sang. C'est un fait que nous ne comprenons pas bien aujourd'hui dans la plupart des églises. Nous avons connaissance qu'ils erraient pendant 40 ans dans le désert. Et Dieu allait devant eux, le jour, dans une colonne de nuée, et ceci pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Dieu leur donnait de la nourriture et de l'eau, et il pourvoyait à tous leurs besoins. Alors Dieu, El Shaddai, leur donna la loi de l'alliance de sang. Et nous l'appelons la loi mosaïque parce que Moïse était l'instrument par lequel elle vint à Israël. Cette loi devait les séparer de tous les autres peuples du monde. Ils devenaient de ce fait un peuple particulier à qui le Seigneur pouvait donner des bénédictions inaccoutumées, et c'était surtout sur la base de l'alliance de sang. L'alliance était le centre autour duquel la vie entière d'Israël se mouvait et existait. Après que Dieu avait donné la loi était transgressée et il leur fallait un sacerdoce. Il n'y avait pas eu auparavant un sacerdoce installé par Dieu dans l'histoire entière de la race humaine. Mais maintenant, le Seigneur installa le sacerdoce et le souverain sacrificateur. Avec le sacerdoce, il établit aussi le jour des expiations et ses offrandes et ses sacrifices. Il n'y avait pas eu auparavant un grand jour des expiations. Alors Dieu établit un sacrifice spécial où le sang devait couvrir la loi transgressée et couvrir Israël qui était mort spirituellement afin que Dieu pouvait demeurer parmi eux. Le mot « expiation » en hébreu veut dire « protéger, couvrir » et Dieu le leur donna à cause de la vie qui était dans le sang. Cette vie dans le sang servait d'une couverture, d'une protection pour Israël avec sa loi à ne pas transgresser pour pouvoir tenir debout, protégé et couvert, et ceci devant leur Dieu. Le souverain sacrificateur de l'alliance de sang devait être garant de l'alliance. Il se tenait debout entre le peuple et Dieu. Et une fois par année, il entra dans le sein des saints pour faire l'expiation annuelle. Et c'est là la seule fois que le souverain sacrificateur fonctionnait, à moins que certaines personnes avaient gravement péché. La fonction du souverain sacrificateur était singulière parce qu'il a vu la couverture ou l'expiation pour le peuple une fois par année et il a confessé les péchés du peuple sur la tête du bouc émissaire. Et puis il l'a chassé dans le désert pour y mourir. Sa présence était donc nécessaire pour maintenir leur association et pour garantir leur protection. Avec l'expiation et le sacerdoce, vinrent les sacrifices de l'alliance de sang. Les cinq grandes offrandes mentionnées dans les premières sept chapitres du Lévitique sont l'holocauste, l'offrande de fleurs de farine, le sacrifice d'action de grâce, le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité. Ces offrandes étaient les offrandes d'association et avaient affaire à la vie quotidienne du peuple. Quand un Israélite était en communion, il pouvait apporter l'holocauste ou l'offrande de farine ou le sacrifice d'action de grâce. Lorsque il avait péché contre son frère, il pouvait offrir le sacrifice d'expiation. Lorsque il avait péché contre les saintes choses de Dieu, il pouvait offrir le sacrifice de culpabilité. À l'égard de celui-ci, le souverain sacrificateur exerçait ses fonctions sous certaines conditions. Ils étaient le peuple de l'alliance de sang et il fallait les garder en communion avec les obligations et les privilèges de l'alliance de sang. Quelles étaient les bénédictions de l'alliance? Dieu avaient de l'obligation à les protéger des armées de toutes les nations agressives et hostiles autour d'eux qui les entouraient. Dieu avait de la responsabilité à faire produire de bonnes récoltes à leurs terres. Dieu avait la responsabilité par l'alliance à faire multiplier le bétail et les moutons. La main de Dieu était sur eux en bénédiction. Ils devinrent riches et chefs des nations. Jérusalem devint la ville la plus riche du monde. Les flancs de leurs coteaux étaient arrosés chaque soir. Leurs vallées abondaient en opulence. Il n'y avait pas une ville comme Jérusalem dans le monde entier et il n'y avait pas une nation comme Israël. L'Éternel était leur Dieu. Ils étaient le peuple de l'Alliance de Dieu. Sous l'Alliance, un seul homme pouvait poursuivre 1000 dans une guerre, et deux hommes pouvaient mettre en fuite 10 000. Au temps de David, la vérité de l'Alliance était devenue une force vivante parmi les enfants d'Israël. David avait des guerriers qui étaient des hommes de l'Alliance de sang. Chacun de ces guerriers pouvait tuer 800 hommes dans un seul combat. Il pouvait déchirer un lion comme s'il avait été un chevreau. Ils avaient de la force physique pour accomplir des prouesses. Ils avaient la protection divine qui les fit les plus grands guerriers qu'a jamais vu le monde. Ils étaient le peuple particulier de Dieu. Ils étaient le trésor du cœur de Dieu. Il n'y a pas un événement dans l'histoire humaine qui est plus tragique que la destruction de la ville de Jérusalem, après laquelle les habitants étaient enlevés en captivité à Babylone. Parce que pourquoi? Parce que, voyez-vous, ils avaient péché contre l'Alliance. Les cieux devinrent d'airain, la terre était de fer, leur pluie était changée en poussière, ils étaient frappés de maladies, ils étaient battus par leurs ennemis jusqu'à ce que leur grande ville, qui était la plus riche du monde, fut un tas de ruines. Le temple qui avait coûté tant d'argent fut détruit complètement et réduit en poussière et en cendres. Ils avaient abandonné l'Alliance de sang. Chers amis, dans le prochain CD, nous aurons le bonheur de parler de la nouvelle alliance, de la nouvelle dispensation. Et maintenant, nous terminerons ensemble par la prière. Tout d'abord, je vais vous dire les paroles d'un cantique très ancien. Il dit ceci. Hélas, ils sont nombreux les moments de nos peines. Souvent, nos durs sentiers traversent le désert. Mais là même, ô Christ, jaillissent tes fontaines. Oui, là même, ton rocher nous reçoit à couvert. Non, dans les sombres jours de ta marche pénible, jamais, ô racheté, tu n'es seul ici-bas. Ton berger, ton sauveur se tient, quoique invisible, sans cesse à tes côtés et veille sur tes pas. Prions ensemble. Ô Dieu, notre Père céleste, qui châtie celui que tu aimes et qui frappe de tes verges tous ceux que tu reconnais pour tes enfants, que tes dispensations sont diverses, que les épreuves que tu nous envoies sont variées et quelquefois multipliées. Ô, donne-nous, Seigneur, de reconnaître ta main dans cette discipline paternelle dont nous sommes souvent les objets, afin que nous puissions tout supporter avec patience, avec douceur et avec joie. Que chaque épreuve que tu nous envoies produise en nous un fruit paisible de justice, que nous ne nous tenions pas comme tremblants sous ta main redoutable, mais que nous puissions en tout temps te bénir et t'adorer comme notre Dieu sauveur, qu'ainsi, au lieu de subir nos épreuves comme des malheurs auxquels nous ne pouvons nous soustraire, nous les acceptions dans l'esprit de Jésus-Christ, tellement qu'elles se changent pour nous en bénédictions réelles et que notre volonté soit rendue de plus en plus conforme à la tienne. Préserve-nous aussi de regarder aux causes secondaires et de nous y appesantir. Élève nos regards au-dessus de toutes les circonstances extérieures vers toi, ô notre Père, tellement qu'au lieu de nous complaire dans une douleur stérile et égoïste, nous nous appliquions à recueillir le fruit de l'épreuve. Dieu des affligés, Dieu de toute consolation, quelle grâce de pouvoir crier à toi dans toutes nos détresses. Nous te recommandons tous ceux qui sont affligés de quelque manière que ce soit, afin que tu les consoles, que tu fortifies leur cœur en toi et que tu nous rendes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Et quels que soient nos problèmes, que nous puissions toujours venir à toi. Nous voulons rendre gloire et adoration à jamais. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais, n'oubliez pas que Dieu vous aime et nous vous aimons également de tout notre cœur. Soyez bénis et merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et à bientôt, à nouveau. Au revoir, mes chers amis.